Alors, ce sera une belle session. Une session qui va vous permettre de découvrir la grandeur, la beauté et la justesse du Dieu des chrétiens. C'est Saint Thomas d'Aquin, disait que lorsque l'homme entretient une fausse connaissance de Dieu, loin de se rapprocher de lui, il s'en éloigne. Cette session a donc pour but de vous aider à entrer dans une vraie connaissance de Dieu, non pas que vous connaîtrez Dieu dans sa totalité, c'est impossible, il nous dépasse, il est infini, mais nous allons rentrer dans une vraie connaissance de Dieu et cela vous le rendra aimable. Cette session a pour but justement de fortifier votre foi et vous aidera à construire votre vie sur Dieu, avec lui. Car nous en faisons l'expérience dans nos sociétés de plus en plus. S'éloigner de lui, c'est faire entrer le monde dans l'obscurité, c'est rentrer nous-mêmes dans l'obscurité. Et vivre avec lui, au contraire, c'est vivre dans la lumière et faire pénétrer cette lumière dans notre monde. Cette session vous aidera donc à mettre votre orientation de vie sur l'éternité. Le bienheureux Carlo Acutis disait « Notre objectif doit être l'infini, pas le fini. L'infini est notre patrie. » Et l'infini, c'est Dieu, vous comprenez. Et Carlo était convaincu que la beauté de la vie ne dépend pas de sa durée, mais de notre capacité ou non à mettre Dieu au premier plan. Donc, le but que nous assignons à cette session, c'est de vous aider à découvrir Dieu dans sa beauté, sa grandeur, et donc que vous soyez suffisamment enthousiaste pour mettre Dieu dans votre vie au premier plan. Et vous verrez que c'est très important et ça change tout. Alors, le titre de cet enseignement, c'est « L'éclipse de Dieu créateur, providence, de Dieu créateur et providence et ses conséquences ». Alors, dans un premier temps, on va essayer de revenir sur les raisons d'une désaffection progressive du Dieu créateur et providence. C'est vrai que l'éclipse de Dieu créateur et providence est motivé par deux mouvements, on va dire. L'un est la montée de l'autonomie de l'homme, autrement dit l'avènement du subjectivisme. Cette question est en rapport étroit avec la liberté, nous le verrons. Et l'autre mouvement est lié à la question du mal. Si Dieu est créateur et provident, c'est-à-dire qu'il nous comble, qu'il nous donne de quoi vivre, s'il a pouvoir de nous donner ce qu'il faut pour accéder au bien de notre être, comment peut-il se faire que le mal ait une telle emprise? Donc, premier point, la montée de l'autonomie de l'homme. Comment ça s'est passé? Eh bien, à la fin du 15e, début du 16e siècle, nous sommes entrés dans l'ère de la modernité et c'est les découvertes scientifiques que l'on fait où on s'aperçoit que à travers les découvertes scientifiques, on va découvrir les lois de la nature. Et si vous voulez, là où on mettait auparavant des anges pour expliquer la rotation des astres, pour expliquer tous les tel ou tel phénomène, ou là où on pensait qu'il y avait une intervention directe de Dieu, eh bien on s'aperçoit que c'est des lois physiques que l'on peut bien connaître. Donc, on assiste à un désenchantement du monde. Les nouvelles technologies vont révolutionner le travail et le rapport de l'homme au monde et vont faire que l'homme se trouve dans un nouveau rapport de force avec le monde et avec Dieu. L'homme prend conscience de sa force, qu'il peut dominer certains aspects qu'il ne pensait pas dominer jusqu'alors. L'homme s'affirme Il peut se passer de Dieu, et c'est ce que l'on appelle l'avènement du subjectivisme qui va peu à peu rejeter toute objectivité, c'est-à-dire tout ce qui vient de l'extérieur de soi. Tout ceci se traduira dans la pensée philosophique, et tout particulièrement avec le fameux cogito ergo sum, donc de Descartes, « je pense donc je suis ». Il exprime par là que la source de mon être n'est plus Dieu, le réel, mais la source de mon être, c'est ma propre pensée, c'est moi. Pour Descartes, la nature des choses, c'est-à-dire le sens des choses, n'est plus donné par Dieu. C'est-à-dire que les choses n'ont pas de finalité en soi. C'est moi qui vais donner le sens aux choses. C'est à l'homme que revient la charge de donner à la nature sa finalité, c'est-à-dire son but, son sens. Descartes disait « Il nous faut devenir maître et possesseur de la nature ». C'est-à-dire c'est l'homme qui doit dominer complètement la nature, qui va donner le sens aux choses, au réel. Et c'est la route vers l'oubli de Dieu créateur. C'est une route qui est ouverte. Alors cependant, ne pensez pas que cela s'est fait du jour au lendemain d'un seul coup. Au tout début, il n'était pas du tout question de nier Dieu, de nier son rôle créateur, ni même provident. Mais tous les philosophes et les scientifiques de l'époque, au XVIe siècle, étaient imprégnés de christianisme. Mais avec cette nouvelle façon de penser notre rapport au monde et à Dieu, peu à peu nous parviendrons à des humanismes où Dieu n'aura plus de place. Naîtront des humanismes athées et donc totalitaires. Alors, par exemple, voyez-vous, les philosophes des Lumières, donc ça c'est le XVIIIe siècle, eh bien les philosophes des Lumières, bon, comme Voltaire, admettent Dieu. Mais, voyez-vous, c'est un Dieu qui ne se révèle pas, qui n'agit pas dans notre histoire. Pour les philosophes des Lumières, il y a un refus de la révélation. Pour eux, c'est de l'obscurantisme. Voltaire était un déiste, il disait « Dieu a créé l'horloge, quel monde !» Mais il en a donné les lois, peut-être, mais l'horloge maintenant, elle tourne toute seule, et on n'a plus besoin de Dieu. Et surtout, ne croyez pas que Dieu s'auto-communique aux hommes, qu'il se révèle. Ça, il n'en voulait pas, parce que s'il se révèle, alors on est obligé de lui obéir. Mais comme on a atteint l'autonomie, c'est-à-dire qu'on veut être nous-mêmes autonomes, eh bien, on refuse la révélation. Et c'est pour cela que, après, il y aura tout un courant qui va faire en sorte qu'on va détruire la révélation. On va remettre en doute la Bible, l'historicité de la Bible. Alors là, je vous ai parlé des Lumières, je vais vous donner une liste de quelques philosophes qui vont amener toujours plus loin l'homme à nier Dieu. Par exemple, Feuerbach, donc mort en 1872, il disait que le tournant de l'histoire sera le moment où l'homme prendra conscience que le seul Dieu de l'homme est l'homme lui-même. Voilà. Thomas Huxley, donc mort en 1895, va répondre à la question de l'origine de l'homme et il va absolutiser les hypothèses de Darwin. L'homme ne vient pas de la création de Dieu, mais il vient de l'évolution, fruit du hasard. Voilà, pour lui, l'évolution était uniquement liée au hasard. La science, disait-il, a percé le mystère de l'origine de l'homme, l'homme ne venant pas de Dieu créateur. Il n'a donc pas à obéir à ses soi-disant lois. Après, bon, vous avez un certain Freud, mort en 1939, le fondateur de la psychanalyse, qui va donner une nouvelle interprétation de l'homme. Et il va mettre le primat sur le désir. le désir devient un absolu. Il va déculpabiliser totalement le plaisir sexuel. Il servira d'appui à la révolution sexuelle, laquelle enfermera l'homme dans sa libido et le coupera de Dieu. Voilà. Il faut que l'homme puisse, entre guillemets, satisfaire tous ses désirs. Voilà. Nietzsche, mort en 1900, prêche le surhomme, c'est-à-dire un individu supérieur où la volonté de puissance se déploie. Cela signifie qu'il est libre et donc, comme il dit, qu'il est créateur. Il a lui-même assez de puissance pour créer ses propres valeurs. C'est lui désormais qui définit le bien et le mal. Et puis, on va terminer avec un philosophe français, Jean-Paul Sartre, mort en 1980, donc il y a un peu plus de 40 ans. Il va faire de la liberté un absolu, la liberté coupée de toute morale et de toute responsabilité. Ce qui compte, c'est mon choix. Alors, voyez-vous, dans tout cela, eh bien, va se diffuser une mentalité qui peut entrer d'une façon ou d'une autre dans notre cœur, même si on ne le veut pas, bien sûr. Je pense que si vous êtes là, vous ne le voulez pas. Mais on va se diffuser la mentalité que Dieu est le concurrent de ma liberté. En définitive, le rejet d'un Dieu créateur et provident est motivé par le fait que l'homme veut sauvegarder sa liberté. Dieu est vu comme un concurrent de ma liberté. Il m'empêcherait de faire ce que je veux, comme je veux et quand je veux. Et voyez-vous ce que disait ce poète Dietrich Heinrich Keller, mort en 1921, dans une lettre à Max Scheler. Il écrivait ceci. « Même si l'on pouvait prouver que Dieu existe, je ne veux pas qu'il existe, parce qu'il me limiterait dans ma grandeur. » Voilà. Alors ça vous étonne, mais sachez qu'on vit dans cette perspective. Essayez de réfléchir à tout ce qui, toutes les informations que vous recevez au jour le jour, toutes les transformations des lois sociétales, eh bien, c'est les manifestations de cet absolu de l'homme qui se prend pour Dieu. Tout simplement. Dieu, en quelque sorte, est sommé de se retirer afin que les créatures puissent enfin exister et respirer. Quelle logique trompeuse ! Si Dieu en venait à se retirer des êtres qu'il crée, c'est l'être même de ces créatures qui tomberait dans le néant. Et ça, on l'approfondira. Mais si Dieu cessait un seul instant de penser à nous, nous tomberions dans le néant. Voilà. Et je termine cette partie. Dans cette perspective, la liberté a pris un autre sens. En effet, la liberté n'est plus en vue du bien que sont les choses, puisque cela n'existe pas. Mais la liberté devient une liberté de choix. Le bien et le mal trouvent une autre définition. Il n'y a plus de bien et de mal objectif, c'est-à-dire qui vaut pour tous et pour tous les temps. Mais le bien dépend de mon vouloir, de mon désir. De manière caricaturale, les choses seront considérées bonnes par moi si elles permettent de réaliser mon désir et elles seront mauvaises si elles ne le permettent pas. Et Mgr Hayek, qui vient d'éditer un livre, disait cette semaine dans une interview « Je pense que l'on a assisté à une période où la question de Dieu s'est progressivement effacée au profit d'une attention excessive à l'homme, à son ressenti, à ses émotions. » Alors, je vous ai dit que l'éclipse de Dieu pouvait s'expliquer justement par la montée de l'autonomie de l'homme. Premier point, mais aussi, deuxième point, par la question du mal. En effet, à cause des génocides du siècle dernier, notamment avec les camps de concentration, tout cela va provoquer un véritable traumatisme pour beaucoup. Et on va dire, si Dieu existe, il ne permettrait pas cela. Voilà. Il n'est plus possible, après ce qui s'est passé, dit-on, de croire, comme par le passé, que Dieu veille avec sollicitude sur chacun de ses enfants et fait tout concourir à leur bien. Il ne faudrait plus dire que Dieu est le Père Tout-Puissant. Et Hans Jonas, auteur juif contemporain, cherche à penser Dieu après Auschwitz. Il reconnaît que la toute-puissance divine est une idée qui est bien ancrée dans la Bible, puisqu'avec la bonté de Dieu, elle est l'un de ses attributs essentiels, c'est-à-dire de ses caractéristiques essentielles. Mais après Auschwitz, nous dit-il, il faut renoncer à cette idée de toute-puissance de Dieu. Après Auschwitz, nous pouvons affirmer plus résolument que jamais auparavant qu'une divinité toute-puissante ou bien ne serait pas toute bonne, ou bien resterait entièrement incompréhensible, écrit-il. En effet, pour que Dieu reste quelque peu intelligible, il faut que sa bonté soit compatible avec l'existence du mal, et il n'en va pas de la sorte s'il n'est pas tout-puissant. Il n'en va pas de la sorte que s'il n'est pas tout-puissant. Voilà, ceci a pour conséquence d'enfoncer les athées dans la conviction qu'il n'y a pas de Dieu. Et pour les chrétiens, les chrétiens y croient en Dieu, ça c'est évident. Mais ce type de pensée aura une grande importance. Pour beaucoup de chrétiens, il faut se débarrasser une fois pour toutes de l'idée que Dieu mène le monde et qu'il est maître du temps et de l'histoire. Ce qui amène beaucoup de prêtres à dire aujourd'hui que Dieu, dont l'amour est tout puissant, vous bénisse. Il y a certains prêtres qui ne refusent de dire, de parler de Dieu tout puissant. Ils disent que Dieu, dont l'amour est tout puissant. Voilà. C'est parce qu'ils refusent la toute puissance à Dieu. Voilà. Alors, certains chrétiens, certains théologiens vont dire, il faut nous orienter vers une nouvelle idée de Dieu. Voilà. Et si vous voulez une nouvelle idée de Dieu, on essaie de concevoir un Dieu qui n'est plus Dieu, qui n'intervient plus dans notre histoire, qui n'est pas capable de faire des miracles. Voilà. Alors maintenant, on va regarder les conséquences de l'éclipse de Dieu créateur et providence. Alors, sur le plan anthropologique, c'est-à-dire de l'homme, l'homme moderne, la conséquence, c'est que l'homme moderne a pris la place de Dieu. L'homme, se faisant maître de tout, peut donc déconstruire toute chose et le reconstruire à sa guise. Et en plus de cela, il est aidé par les découvertes technologiques, qui en soi peuvent être bonnes, mais ces découvertes technologiques lui permettent de repousser les limites de sa nature. Et ainsi, il pense se refaçonner comme il veut. Les découvertes technologiques ne lui permettent non plus de rétablir la nature quand elle est cassée, quand on a notre corps qui marche mal, par la médecine, par exemple, par la chirurgie, on arrive à rétablir le bon fonctionnement en obéissant aux lois de la nature telles qu'elles nous ont été données. Mais les découvertes technologiques vont nous permettre de nous arracher à la nature. Le but n'est plus que notre corps soit réparé, mais qu'il soit vaincu. Cela lui permet à l'homme d'accéder au transhumanisme. C'est-à-dire de croire qu'il va pouvoir dépasser les limites jusqu'alors indépassables que lui donnait sa nature et devenir un autre homme. Et l'homme n'a plus peur des comportements contre nature. C'est lui qui doit choisir. Comme il ne se reçoit plus comme créature, en effet, puisque et qu'il est, il devient son propre créateur, eh bien il est libre de disposer de son corps comme il l'entend et de construire son identité à sa guise. Et là, ben, on touche les idéologies du gender. L'idéologie du gender, eh bien, procède de cette logique de l'oubli et du rejet de Dieu créateur. C'est moi, je refuse la nature telle qu'elle m'a été donnée, je vais me construire comme je veux, selon mon désir. Voilà, c'est une illusion, vous comprenez bien. Mais ça crée des catastrophes. Ça, c'est évident. Certains sont victimes de cela. Alors l'homme moderne va devenir de plus en plus enfermé dans son désir, c'est une autre conséquence. Son désir devient alors tout puissant. Il devient un être de désir au point d'en être un esclave. Voilà la conséquence de l'oubli de Dieu créateur. Puisqu'il ne veut plus oublier et ne veut obéir aux lois du Dieu créateur. Et donc, de plus en plus enchaîné par la tyrannie du plaisir, selon l'expression de Paul VI, il devient un analphabète dans le domaine spirituel et religieux. L'idolâtrie du plaisir, de l'hyperconsommation, le conduit à une peur du transcendant. Voilà. Alors, dans la vie sociale, conséquence dans la vie sociale, eh bien, Dieu est relégué dans le domaine du privé. On dit, bah, si vous voulez croire en Dieu, libre à vous, mais c'est uniquement dans le privé. Il ne faut surtout pas que votre foi en Dieu créateur ait une influence dans l'organisation de la vie sociale. Voilà. Après, si on ne croit plus en Dieu créateur, eh bien, il n'y a plus de vérité. Il n'y a plus de transcendance, c'est-à-dire un principe qui domine tout. Et donc, s'il n'y a plus de vérité, on tombe dans le relativisme. Voilà. Parce que s'il y a un Dieu créateur, créateur de toutes choses, ça veut dire que tout ce qu'il a créé a une raison d'être et qu'on doit obéir à cette raison d'être. Et s'il n'y a plus de Dieu créateur, eh bien, chacun va pouvoir obéir à ce qu'il pense être sa raison d'être. On est en plein dans le relativisme. Alors, sur le plan de la foi chrétienne, cela va avoir une certaine incidence. Parce que ça va contaminer notre foi. Aujourd'hui, l'Église est dans une grande crise. Pourquoi? Parce que, eh bien, on essaye d'atténuer l'absolu de l'Évangile, l'absolu de la foi. On va humaniser la foi, on va l'horizontaliser, si on peut parler ainsi. Certains ont parlé d'un athéisme fluide qui va liquéfier, le contenu de la foi. On croit difficile que Dieu, ainsi, et puis directement peut avoir un impact direct sur la matière. Ainsi, les miracles vont être remis en cause ou limités au maximum. Vous connaissez l'histoire sainte, Dieu qui se révèle à Abraham, à Moïse, au peuple hébreu. Eh bien, quand vous allez dans certaines universités de théologie, on va mettre en doute cela petit à petit en disant mais non, ça s'est pas vraiment passé comme ça, c'est d'une réflexion de l'homme qui a fait dire que Moïse avait agi de telle ou telle manière, qu'il avait eu tel ou tel miracle. On ne croit plus à une action directe de Dieu sur l'histoire. Et les grands dogmes que sont la virginité de la Vierge Marie. La Vierge Marie est vierge avant, pendant et après. Le grand dogme de l'Eucharistie, de la transsubstantiation. Le dogme, enfin pas le dogme, mais le mystère de la résurrection, eh bien on ne va plus y croire. La virginité de la Vierge Marie, on dit c'est une manière de parler. L'Eucharistie, oui peut-être. Peut-être que Dieu donne quelque chose dans l'Eucharistie, mais ce n'est pas vraiment son corps, il n'y a pas vraiment le changement de substance. C'est pour cela que vous avez vu disparaître petit à petit, eh bien, les signes d'adoration de l'Eucharistie, qu'on reçoit l'Eucharistie de n'importe quelle manière, qu'on a enlevé un peu la lumière qui entourait les tabernacles, parce qu'on ne croit plus à la réalité de l'Eucharistie en tant que telle, où c'est le vrai corps et le vrai sang du Christ, et la résurrection. Beaucoup disent, oui, la résurrection, mais bon, c'est un phénomène de l'esprit. C'est-à-dire, il sait pas, mais...
Ils n'ont pas lu Saint Paul, ces gens-là.
Oui, ils n'ont pas lu Saint Paul, mais justement, Saint Paul, eh bien, oui, il s'en éloigne, oui, tout à fait. C'est vrai. Mais, vous savez, les choses ne sont pas dites aussi clairement que je vous le dis, mais dans les faits, elles sont vécues comme si l'Eucharistie n'était pas vraiment l'Eucharistie, comme si la résurrection n'était pas vraiment une résurrection, c'est-à-dire que Jésus n'était pas vraiment ressuscité avec son corps. Voilà. Et donc, je voudrais terminer. Voyez-vous la manière nous-mêmes d'avoir géré la crise du Covid? Au Moyen-Âge, au 19e siècle même, quand il y avait une épidémie, on courait à l'église, on sortait le Saint-Sacrement, on priait, on implorait Dieu. Dieu créateur et provident, éloigne de nous ce fléau. Qu'est-ce que nous avons fait, nous? Nous sommes éloignés de l'Église, nous sommes terrés, et notre toute-puissance était dans les gestes barrières, je crois qu'on appelait ça, oui. Voilà. Alors peut-être qu'il fallait des choses comme ça, mais, voyez-vous, on attendait tout, je dirais, de ces gestes, de ces protocoles techniques. Et on n'attendait rien de Dieu véritablement. Et quand on priait Dieu, eh bien, on priait Dieu de nous inspirer, d'avoir l'inspiration d'avoir des gestes de solidarité entre nous pour nous aider. C'était notre manière de concevoir la providence de Dieu à ce moment-là. Vous ferez très attention à certains textes qui ont été donnés pour prier Dieu. Vous verrez. Vous verrez. Alors vous allez dire, autre conséquence, c'est un retour au paganisme. Parce que l'oubli de Dieu, bon, c'est l'athéisme. Alors l'athéisme, on peut dire, va entraîner la mort de la religion. Mais que nenni, il n'en est rien. Il n'en est rien. Parce que l'homme a inscrit en lui le désir religieux. Et donc, il va créer une autre religion. Mais il ne va pas adorer le Dieu transcendant au-dessus de tout, qui est créateur, qui est provident. Mais il va adorer la nature. Il va sacraliser la nature. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Là où l'on n'adore plus Dieu, on adore les bêtes. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et voyez-vous, en même temps, je ne moque pas, parce qu'il faut faire une action sur la nature, l'écologie, c'est très important. Mais, voyez-vous, il y a des autocollants qui disent... qui disent... Je pose un acte sauveur pour la nature. Voilà. On a besoin de salut, mais le salut ne vient plus de Dieu. Voilà. Mais on veut sauver la nature. Voilà. Et je me sacrifie non pas pour Dieu, dans l'amour de Dieu, mais je vais me sacrifier maintenant pour la nature. Voyez-vous, on a changé de plan. Alors là, excusez-moi, mais je dépasse. Oui. Alors, le cardinal Sarah avait donné une très belle conférence après l'incendie de la cathédrale Notre-Dame. Et il disait que Notre-Dame de Paris symbolise tout l'Occident. La flèche de la cathédrale pointée vers Dieu s'est effondrée. Et ce n'est pas un hasard. À force de se détourner de Dieu, disait-il, l'Occident s'effondre. La civilisation occidentale est en profonde décadence et en ruine, malgré ses succès scientifiques et technologiques fantastiques et les apparences de prospérité. Comme la cathédrale Notre-Dame, elle vacille. Elle a perdu sa raison d'être, montrer Dieu et conduire à Dieu. Sans la flèche qui couronne l'édifice, les voûtes s'effondrent. Et c'est vrai que refuser à Dieu la possibilité d'entrer dans tous les aspects de la vie humaine revient à condamner l'homme à la solitude. Et le cardinal a mis le doigt sur le point crucial, c'est le refus de la paternité. Il disait, « Je discerne au fond des cœurs occidentaux un profond refus de la paternité créatrice de Dieu. On a convaincu nos contemporains que pour être libre, il fallait ne dépendre de personne. L'Occident refuse de recevoir. Il n'accepte que ce qu'il construit lui-même. » Voilà. Quand on oublie Dieu, l'homme se tourne sur lui-même. Il ne veut plus recevoir des autres, surtout pas de Dieu. Et donc, il se détruit. Mais regardons la belle signification des cathédrales. Elles manifestent au contraire la grandeur de Dieu. Elles manifestent une grande foi à l'égard de Dieu. Les grandes cathédrales d'Occident n'ont pu être bâties que par des hommes de grande foi et de grande humilité qui étaient profondément heureux de se savoir fils de Dieu. Elles sont comme un chantre de joie, un chant de joie, une hymne à la gloire de Dieu. Elles sont l'œuvre de fils qui aiment et adorent leur Père du ciel. Tous étaient heureux de graver sur la pierre l'expression de leur foi et de leur amour pour Dieu, et non la gloire de leur nom. Leur chef-d'œuvre devait glorifier et louer uniquement Dieu. L'homme moderne occidental est trop triste pour réaliser de tels chefs-d'œuvre. Eh bien, ce soir, vous qui êtes ici, nous tous qui sommes ici, je vous propose, nous vous proposons de réaliser à nouveau ce chef-d'œuvre. Est-ce que vous voulez réaliser, relever cette belle cathédrale, ces belles cathédrales, construire une belle cathédrale? Hein? Nous vous proposons par cette session de retrouver le sens de Dieu, de découvrir combien notre Dieu est un Dieu plaigner, grand, bon, tout-puissant. Il peut tout, il veut notre bien. N'ayons pas peur de Dieu, il ne vous enlèvera pas votre liberté, mais au contraire, en collaborant avec lui, en vous recevant de lui, votre liberté grandira. Vous explorerez des réalités beaucoup plus belles que votre moi et les caprices de vos désirs. Au cours de cette session, nous apprendrons à connaître Dieu par des enseignements qui vous transmettent la grande tradition chrétienne, mais aussi nous apprendrons Dieu à genoux, en nous mettant à genoux, en priant, en vivant la liturgie, car il se donne à nous dans la liturgie. Dans la liturgie, nous apprenons à le servir, à l'aimer, à le connaître. Dans la liturgie, il se communique à nous et nous divinise. Et nous apprendrons aussi Dieu dans l'esprit de famille, car c'est dans l'esprit de famille que nos cœurs s'ouvrent pour recevoir la grâce divine. Alors, en avant pour une belle session.